Bonsoir à chacun. Je vous invite à ouvrir la Bible dans les psaumes. Le psaume 19 sera notre première lecture. Psaume 19 et le verset 8. Il nous est dit ceci: la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit l'instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Amen. Deuxième lecture dans l'Exode. Exode est le chapitre 20. Il est question de la loi de l'Éternel, on l'a lu, qui restaure l'âme. Je voudrais qu'on puisse lire un exemple, une partie de la loi de l'Éternel. C'est une partie que sûrement vous avez déjà entendue. Il s'agit des 10 commandements. Qui n'a jamais entendu parler des 10 commandements? À part Monsieur Go. Bon, on est d'accord. Les 10 commandements, ça se passe là au verset 20. Ils y sont donnés dans l'Écriture à deux reprises, mais il y a cette partie qui est là. Exode chapitre 20 verset 1er. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit jusqu'à la troisième, qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à la millième génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours. Et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Une bonne lecture, mais qui est tellement importante. Ce soir, je voudrais qu'on étudie ensemble les vertus de la loi. Qu'est-ce que la loi peut nous apporter de bon? La loi, en l'occurrence les 10 commandements ou les ordonnances de l'Éternel. On a vu ensemble ce premier verset. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. C'est déjà un aspect. La loi restaure l'âme, d'accord. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert de connaître les commandements de Dieu? À quoi ça sert de connaître la loi? Et en particulier cette loi qui concernait les Israélites, qui concernait les Juifs. Est-ce que ces choses-là nous concernent encore? Ou est-ce que on a l'impression aujourd'hui que les païens, ils pensent que tout ce qui concerne Dieu, ça les concerne pas. Et les chrétiens pensent que tout ce qui concerne les Juifs ne les concerne plus. Il y a une espèce de mélange qui est là. Et je voudrais que ce soir, qu'on puisse clarifier certaines choses par rapport à la loi, par rapport au fait que la loi de l'Éternel est parfaite. Et on a besoin de réfléchir comme David qui disait, vous connaissez ce psaume premier, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des voqueurs. Mais qu'est-ce qu'il fait cet homme pour être heureux? Il médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Et quand il est question de la loi de l'Éternel, quand David il parle de la loi de l'Éternel, il fait référence à la loi de l'Éternel, c'est-à-dire les cinq premiers livres de la Bible. Ça veut dire qu'il y a une richesse quand même qui est là, contenue dans ces livres de la parole, et qui peut nous amener, nous, à découvrir quelque chose de particulier dans le Seigneur. Je voudrais qu'on puisse faire encore une petite lecture dans Romains, un simple verset, Romains chapitre 3, verset 19, qui nous parle justement de l'utilité de la loi. À quoi ça sert la loi ? Romains 3, verset 19 nous le dit. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, mais c'est par la loi que vient la connaissance du péché. À cause de la loi, à cause des commandements que Dieu a donnés à son peuple, nous avons la connaissance du péché. Et l'apôtre Paul dira quelque part que c'est parce que j'ai entendu le commandement « tu ne convoiteras point » que mon cœur a commencé à être tenté par ces choses-là. Mais si je n'en avais pas eu conscience, j'aurais pas mis un mot sur ces choses qui m'animaient. Parce que les choses, elles y sont quand même. Même si on n'en a pas conscience forcément, c'est dans la nature humaine que les mauvaises pensées sont là. Mais à cause de la loi, j'ai la connaissance que c'est du péché. La loi, le péché, c'est la transgression de la loi, nous dira un autre texte. Et la loi nous amène à cette connaissance. Mais quelqu'un va dire, mais oui, mais moi, je ne suis pas juif. On a lu ensemble, elle le dit à tous ceux qui sont sous la loi. Alors, quand on regarde les 10 commandements, par exemple, est-ce qu'il faut absolument être juif pour pratiquer les 10 commandements ? Quand on se rend compte que beaucoup des lois des pays non chrétiens sont basées sur ces commandements-là, par exemple, tu ne tueras point, il n'y a pas besoin d'être de quelconque religion pour comprendre que c'est quelque chose qui s'applique à tous les hommes. Même le jour du sabbat qu'il faut respecter, dans notre société laïque d'aujourd'hui, les gens sont très attachés au dimanche, à ne pas travailler le dimanche. Est-ce que vous aimez apprécier le fait de, à part les pasteurs bien sûr, est-ce que vous appréciez le fait de ne pas travailler le dimanche, d'avoir un jour de repos au moins dans la semaine ? C'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose de bon, et on reconnaît la bonté de ces commandements. On reconnaît qu'il y a une utilité, une richesse de ces commandements, le fait de ne pas dérober, le fait de ne pas convoiter ce qui appartient à quelqu'un, on reconnaît que c'est quelque chose de bon en soi. Et pas besoin de dire « moi je ne suis pas juif » ou « moi je ne suis pas chrétien ». De par le bon sens, on reconnaît que ce sont des bonnes choses. Imaginez que je vienne vous voir maintenant avec une piqûre longue comme ça et que je vous dise... parce que vous allez me demander, très surpris, qu'est-ce que c'est cette piqûre ? Pourquoi vous venez me voir avec une piqûre ? Alors, c'est un remède pour l'acrocéphalosyndictalie type 2. Ça vous embouche un coin hein, que j'arrive à prononcer ça. J'ai vidé mon compte, imaginez-vous, je vous dis ça, j'ai vidé mon compte pour que je puisse me procurer cette piqûre. Maintenant, je voudrais vous l'appliquer. Qu'est-ce que vous allez dire ? Vous allez dire, c'est quoi cette maladie ? Ou alors vous allez dire, bon, à bientôt, et vous allez partir en courant. Parce que vous allez dire, il est fou. Maintenant, je viens vous voir et je vous explique ce que c'est cette maladie en détail. Je vous montre les statistiques, voilà comment l'évolution de la maladie va prendre lieu. Regardez, dans votre corps, vous avez tous les symptômes qui vous montrent que vous avez cette maladie. Et si vous ne faites rien, dans quelques jours, vous allez mourir. Si je vous dis ça, comment vous allez regarder maintenant la piqûre ? Vous allez dire, ben, traitez-moi, même si ça va faire mal, traitez-moi, je veux absolument le remède. Vous êtes d'accord ? Et souvent, on présente l'évangile, on se trompe de cette façon de penser en disant, mais venez à Jésus, Jésus va tout corriger, Jésus va tout arranger, avant de montrer aux gens, par la loi, que ce sont quelque chose, qu'on en a besoin, qu'on est malade, que notre corps est atteint de cette maladie, on l'a chanté, Jésus est le divin médecin qui peut nous guérir de la maladie du péché, tout simplement. La loi nous montre, nous fait connaissance que nous sommes pécheurs. Première chose, la loi dans Galates chapitre 3, verset 23, je le lis pour vous. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un précepteur pour nous conduire à Christ. D'accord ? La loi est un précepteur, c'est-à-dire comme un maître d'école, quelqu'un qui était engagé par une famille riche pour faire la leçon aux enfants dans leur maison. Mais le but du précepteur, c'était de quoi ? Est-ce que c'était d'apprendre aux enfants à rester toute leur vie dans la maison, dans la pièce à jouer ? Ou c'était d'acquérir une maturité, des connaissances, pour qu'un jour ils puissent devenir véritablement des hommes et rentrer dans la vie active, dans la vie qui les attendait véritablement ? Est-ce que c'est pas ça ? La loi, c'est la même chose. Son but le plus important, c'est de nous conduire à Jésus, tout simplement. de nous conduire à celui qui peut nous apporter cette vie éternelle. Maintenant, écoutons avec attention ce que nous dit la loi. On va le faire très rapidement parce que il y en a 10 commandements, on l'a dit au début. Mais à chacun de ces commandements, le Seigneur nous met en garde par rapport à quelque chose. Par exemple, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est le fait de ne pas avoir ce cœur partagé. On doit avoir un cœur véritablement tourné vers le Seigneur. Il commence de cette manière, les 10 commandements. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Est-ce que Dieu est notre Dieu, déjà? Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à Dieu? Est-ce qu'on peut dire, oui, l'Éternel, c'est mon Dieu? Ou alors on dit, ben, peu importe, moi, ça ne me concerne pas, ces choses-là. La Bible nous dit, les commandements nous disent, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je pense à ce jeune homme riche qui est venu voir le Seigneur Jésus, qui disait, Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et cet homme-là, il était tombé à genoux, il était venu en courant, c'était merveilleux. Jésus, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui donne les 10 commandements, enfin, il lui donne une partie des 10 commandements. Honore ton père et ta mère, tu ne convoiteras pas, tu ne tueras pas. Il lui donne tous ces commandements qui concernent le prochain, pour bien mettre en évidence les autres qu'il ne cite pas, c'est-à-dire ce commandement en particulier. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Il fait comprendre à ce jeune homme, par la loi, par les commandements, la chose qui est là dans sa vie, qui est un obstacle. Et ce soir, j'aimerais qu'au travers de ce que nous lisons, que nous puissions avoir le Saint-Esprit qui mette devant nous les choses qui sont comme des obstacles dans notre vie, que le Seigneur Jésus pointe son doigt sur ces choses-là dans notre cœur, afin que nous puissions trouver la libération, le secours dans la personne de Jésus par la suite. Mais d'abord, il faut en avoir conscience. C'est ça, c'est à ça que sert la loi, tout simplement. Le jeune homme riche, quand Jésus lui a dit « Te manque une chose, vends tout ce que tu as », il a dit « Ah non, je ne peux pas ». Et Jésus a dit « Regardez, ce qui a pris la première place, l'autre Dieu qu'il y a dans son cœur, c'est l'argent. » Est-ce que Jésus aurait pu le délivrer? Est-ce que cet homme aurait pu continuer à rester à genoux devant le Seigneur, mais dire « Seigneur, délivre-moi, j'ai ce péché dans mon cœur ». Il aurait pu, mais il est parti tout triste. Il a choisi une mauvaise part. Deuxième chose, tu ne te feras pas d'image taillée. Je réfléchissais à toutes ces idées qui sont là. On est dans un pays chrétien, soi-disant, mais beaucoup d'églises, on a toutes sortes de statues, toutes sortes de représentations. Et je regardais, sans citer le nom de la dénomination, qu'à un moment donné, il est apparu cette doctrine comme quoi le fait d'avoir des idoles, ce n'était pas un péché. On voit bien quand on lit ce passage, tu ne te feras pas d'image taillée, mais en l'an 787, il y a eu un concile, il y a eu une décision des hommes qui ont dit que finalement tout ce que la Bible disait c'était bien, mais maintenant ça devait changer un petit peu. Et ils ont dit que le culte des icônes, finalement c'était quelque chose de bien. Mais ça arrivait en 787, c'est-à-dire 2300 ans à peu près, après que les 10 commandements aient été donnés aux hommes. 2300 ans après, on a dit, ben, finalement, c'est bien. Et combien dans notre monde, bien sûr, il ne s'agit pas seulement des représentations que l'on peut se faire, mais combien de personnes ont des idoles dans leur cœur, des choses qui ont pris la première place dans leur vie, des choses qui les tiennent éloignées de Dieu. Je ne voudrais pas m'étendre, mais voir petit à petit, au travers de ces commandements, que finalement, nous sommes tous pécheurs. Quand on regarde le troisième, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Il suffit de passer 5 minutes dans la rue pour entendre des grossièretés qui prennent le nom de Dieu en vain. Mais on utilise le nom de Dieu dans des grossièretés. C'est quelque chose de fou, on n'arrive pas à le comprendre, mais c'est comme ça que ça se passe. Quand on voit le quatrième commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de travailler le dimanche? Bon, les passeurs, on est obligés. Mais c'est pas ça. Moi, j'avais un emploi dans le monde séculier où je travaillais le dimanche de temps en temps. Je ne sais pas si c'était comme ça. Mais il est surtout question de passer, d'avoir un temps consacré à louer le Seigneur. Et on est bien d'accord que même de manière spirituelle, on peut l'étendre à tous les jours de notre vie. On doit apporter tous les jours de notre vie à consacrer ces temps-là pour louer le Seigneur. Mais tous ces commandements, ça concerne Dieu, ça concerne l'adoration qu'on a envers Dieu, le temps qu'on peut prendre pour Dieu. Maintenant, il y a tous les commandements, les 6 derniers commandements, c'est par rapport au prochain. Honore ton père et ta mère. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens seront rebelles à leurs parents. Quand on regarde autour de nous, c'est pareil. Il ne suffit pas longtemps pour se rendre compte que même les enfants commencent à être rebelles envers leurs parents. Quand on voit ce commandement, tu ne tueras point, on se rend compte qu'autour de nous, quand on voit les informations, c'est la folie, tous les meurtres qu'il peut y avoir. Tu ne commettras point d'adultère. Maintenant, aujourd'hui, dans la société française, l'adultère, c'est quelque chose qui est normal. La Bible le dénonce, simplement. Quelqu'un qui commet l'adultère est un pécheur. Tu ne déroberas point. Ça, c'est... On a vite fait de le lire. Souvent, on entend les gens qui disent « Moi, j'ai jamais tué, j'ai jamais volé. » Et puis, quand on gratte un petit peu, on se rend compte qu'on a tous, un jour ou l'autre, fait quelque chose qui était comme du vol. Je me souviens ce jour où j'étais dans un moment de prière particulier et juste, c'était un temps de prière spécial, mais comme Dieu dans mon cœur m'a mis cette conviction que je devais abandonner. J'avais un logiciel sur mon ordinateur qui était craqué. Vous allez dire, c'est pas la mer à boire, c'est pas compliqué. Oui, mais ça, c'était Dieu m'a mis une conviction de péché par rapport à ça, parce que je ne l'avais pas acheté. Et j'ai pris la suite, c'était une suite bureautique dont je ne citerai pas le nom, mais j'ai pris la suite bureautique gratuite qui existait, qui pouvait remplacer. J'ai fait toutes les démarches techniques pour faire ça, et j'ai eu la paix de Dieu. Et Dieu m'a fait comprendre, c'était comme du vol. J'étais coupable d'avoir volé. Tu ne déraberas point. Le Seigneur m'a montré, tu vois, tu as enfreint cette loi. Et si on regarde les autres, tu ne porteras point de faux témoignages. Qui ce soir peut dire, ça ne m'est jamais arrivé? Qui peut dire, je n'ai jamais menti? Qui peut dire? Moi, c'est quelque chose que je suis sans reproche par rapport à cette loi-là. Vous voyez, si on prenait seulement ce commandement-là, on pourrait dire qu'on est tous coupables devant la loi de Dieu. Tous, sans exception, juste à cause de ce commandement. Parce que la Bible le rappelle, et on est tous d'accord, il suffit d'enfreindre un commandement pour tous les enfreindre. Un seul, tu ne mentiras pas, on a tous menti. Donc aux yeux de Dieu, on est tous coupables, on mérite tous l'enfer. C'est ce que la loi veut nous amener à dire, elle nous donne la connaissance du péché, et elle nous donne aussi cette compréhension qu'on est tous pécheurs et qu'on mérite la condamnation. Mais heureusement, ça ne s'arrête pas là. Et on a besoin d'aller plus loin encore. On a besoin de la méditer de cette loi, comme on le disait. Parce que quand on regarde les 10 commandements du premier abord, c'est ça qui nous vient en premier. Mais quand on réfléchit plus en profondeur, on se rend compte que Dieu veut aussi nous montrer ce qu'il y a de bien. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Il y a quelque chose de bon qui se cache derrière la loi. Et il y a quelque chose de bon qui se cache entre les lignes de ces 10 commandements. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il y a cet aspect que Dieu nous demande d'avoir ce cœur tout entier. Tu seras entièrement à l'Éternel. Tu donneras ta vie tout entière à l'Éternel. Pourquoi ? Parce que quand tu feras ça, l'Éternel sera avec toi. Il va te bénir. Il va prendre soin de toi. Il y a cet aspect de ne pas avoir de l'idolâtrie dans le cœur. Il y a cette promesse que tous ceux qui vont craindre le Seigneur, tous ceux qui vont lui obéir, l'Éternel, il sera avec eux, il sera de leur côté. Le fait, quand on veille sur nos paroles, il y a ce proverbe qui dit « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Jamais comme avant, j'ai entendu autant de gens qui disaient j'ai des angoisses. Presque tous les entretiens qu'on a, des personnes nous disent j'ai des angoisses. Eh bien, il y a un des aspects qui peut nous garder des angoisses, c'est le fait de veiller sur notre bouche. Des paroles qui sortent de notre bouche, ça peut être des grossièretés, prendre le nom de Dieu en vain, mais ça peut être même des paroles méchantes. Quand on médite sur la loi de l'Éternel, c'est-à-dire qu'on va plus en profondeur. C'est pas seulement les paroles où je prends le nom de Dieu en vain, mais c'est toutes les paroles qui sortent de ma bouche, est-ce qu'elles sont bonnes ? Est-ce qu'elles procurent une grâce ? Ou est-ce que j'ai besoin que Dieu m'aide justement parce que c'est pas le cas ? Je me rends compte de ma faiblesse par rapport à ça. Le fait de consacrer tous les jours de notre vie au Seigneur, le fait de respecter ses parents, de se soumettre, combien on a besoin de l'Esprit de Dieu, le fait d'être sérieux dans ses engagements. Est-ce qu'on n'en a pas besoin, tous ? Parce qu'on a tous des engagements à prendre, quel que soit l'engagement du mariage, l'engagement de la nouvelle naissance, du baptême. Tout ça, c'est des engagements, l'engagement envers sa famille, de prendre soin des siens. Tout ça, c'est des engagements. Combien, aujourd'hui, on se rend compte que les gens n'ont pas ce sérieux dans les engagements ? Comment est-ce possible de l'obtenir ? Simplement en venant à Jésus-Christ. Et c'est ce que je voudrais vous faire comprendre ce soir. J'espère que vous le comprenez bien, que tout ce que nous lisons dans la loi, tout le mal que nous lisons ou le bien, ça nous amène seulement à une seule personne, ça nous amène à Jésus, le seul qui est capable de nous aider. Parce que la loi, d'un côté, nous montre tout ce qu'il ne faut pas faire, et elle nous dit tout ce qu'il faudrait faire aussi, mais par nous-mêmes, on n'y arrivera jamais. C'est totalement impossible qu'on puisse faire ces choses. Et si on s'arrête là, si j'arrêtais le message là, eh bien, on serait dans le désespoir total. Mais merci Seigneur, Jésus est venu. Jésus est venu. Jésus est venu nous apporter la paix. Je reviens à ce verset, psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Imaginez une maison qui a besoin de restauration. Qu'est-ce que va faire la première personne, le propriétaire qui veut commencer les travaux? Qu'est-ce qu'il doit faire en tout premier lieu, avant de commencer à préparer du béton, etc. Qu'est-ce qu'il doit faire quand il y a une maison qui doit être restaurée? Il doit regarder partout où il y a besoin de... partout ce qui est cassé, s'il y a une fenêtre qui est cassée, s'il y a un mur qui est totalement abattu. Il doit faire le bilan de ce qui est. Vous êtes d'accord? S'il commence les travaux avant de réfléchir si le mur peut soutenir le poids ou pas, à un moment donné, sa maison va s'écrouler. Mais s'il fait le bilan, il dit, voilà, il y a ça qui ne va pas. Il y a ça qui ne va pas. Ça va encore, c'est à peu près bien. À ce moment-là, il peut commencer les travaux. Voilà ce que la loi nous amène à faire. À faire un bilan dans notre vie et à dire, il y a ça qui ne va pas. Peut-être que je suis un voleur. Peut-être que je suis un menteur. Peut-être que je porte un faux témoignage. Peut-être que je ne réserve pas de temps dans ma semaine pour Dieu. Devant Dieu, je suis coupable. Maintenant, la seule chose qui peut nous aider, une fois qu'on a entendu le message de la loi, une fois qu'on a médité ce message, c'est de regarder à la croix, tout simplement. C'est ce qu'on a chanté. Regardez à ce Sauveur merveilleux. Seul Jésus a pu accomplir toute la loi. La Bible nous le dit. Jésus a dit, quand Jean-Baptiste l'a vu, il a dit « Je suis venu accomplir la loi ». Je ne suis pas venu l'abolir, je suis venu l'accomplir. Je suis venu la respecter à la lettre. Seul Jésus a pu faire ces choses. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais menti, jamais volé, jamais convoité, jamais insulté. On pourrait prendre tous les 10 commandements. Il n'a jamais déshonoré ses parents. Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre comme ça? Bon, on s'arrête encore à ce commandement. Il n'a jamais menti. Je crois que rien que ça, c'est la preuve que Jésus est le Fils de Dieu. Qu'il y a une portion divine dans la personne de Jésus, qu'il est une partie de la personne divine, parce qu'il n'a jamais menti. Quelque chose qui est impossible aux hommes. Ce qui est impossible aux hommes, nous dit la Bible, est possible à Dieu. Oui, Jésus est le Fils de Dieu. Et la loi demande une seule chose, c'est que le pécheur soit condamné. Mais Jésus, il a porté notre péché et il a subi notre condamnation. La loi nous a montré à quel point notre âme, elle est malade. Jésus, il est le remède, pour revenir à l'image de tout à l'heure, qui peut nous guérir. La loi, c'est ce précepteur qui nous a éduqués sur tout le mal qui est attaché à notre nature et tout le bien que Dieu voudrait qu'on puisse faire. Mais Jésus est le seul qui peut effacer notre péché, véritablement, par son sang qui a coulé, et qui peut nous donner cette vie nouvelle où nous allons être capables de faire ce que Dieu nous demande. Est-ce que vous voulez faire ce que Dieu vous demande? Est-ce que vous voulez être capable d'accomplir le bien et de respecter chacun de ses commandements? Eh bien, c'est possible. Simplement en venant à Jésus. Combien c'est simple? Combien l'évangile est simple? Combien quand on comprend ces choses, c'est simple? La seule condition, c'est de venir à Jésus avec humilité. Vous connaissez ce verset qui dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'est-ce qu'il fait aux humbles? Il fait grâce aux humbles. » Je réfléchissais, ce soir on peut se poser la question, comment je suis devant Dieu? Est-ce que je suis orgueilleux ou est-ce que je suis humble? Vous savez que la façon dont Dieu va se comporter envers nous va changer, c'est ce que dit ce verset. Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Quand un docteur de la loi orgueilleux qui est venu voir Jésus pour l'éprouver, lui pose la question, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? La même question que l'autre, Jésus lui donne la loi. Il lui donne la loi afin de lui montrer qu'il lui aussi il est un pécheur. Et il lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et vous imaginez, pendant qu'il entendait cette réponse, cet homme, il est en train de dire, est-ce que j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme? Et je crois qu'il a vite trouvé un endroit dans son cœur qui n'allait pas. Le simple fait de venir voir Jésus pour l'éprouver, pas dans le but d'apprendre, mais dans le but, dans de mauvaises intentions, avec hypocrisie. Le Seigneur a résisté à l'orgueilleux, il lui a présenté la loi. Par contre, une personne qui était coupable par la loi, une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur Jésus ? Vous connaissez cette histoire dans Jean chapitre 8. Le Seigneur Jésus lui dit, « Personne t'a-t-il condamné ?» Il dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Une personne qui est venue devant le Seigneur, qui était coupable, qui était pécheresse, qui était adultère, la loi demandait la condamnation. Mais Jésus, qui a vu le cœur de cette personne, qui était plein d'humilité, plein de repentance, il a dit, « Moi, je ne te condamne pas. Je te fais grâce. » Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Comment ce soir sommes-nous devant Dieu ? C'est la seule question avec laquelle je voudrais finir. Comment suis-je devant Dieu ? Est-ce que je suis orgueilleux ? Est-ce que mon cœur est hautain ? Est-ce que je dis, mais tout ça, ce n'est pas pour moi, je ne veux même pas l'écouter ? Ou est-ce que je dis, c'est vrai Seigneur, simplement ce commandement de ne pas mentir, je suis encore dans le mensonge. Simplement ce commandement de ne pas tuer. Quand il est dit, tu ne tueras point, le Seigneur Jésus va plus loin et dit, quand on a des mauvaises pensées envers quelqu'un, quand on se met en colère envers quelqu'un, on est coupable. Comment est-ce que je suis ce soir devant Dieu ? Est-ce que je suis attentif ? On va se recueillir et on va réfléchir que tous ces commandements que nous avons cités puissent nous amener à la personne de Jésus-Christ, que la loi que nous avons citée ce soir puisse nous apporter, nous amener à la personne de Jésus-Christ qui est le remède. Comment est mon cœur ce soir devant Dieu ? Est-ce que j'ai besoin que le Seigneur me rappelle sa loi pour me montrer à quel point je suis pécheur ? Est-ce que j'ai besoin que le Seigneur me rappelle à quel point le pécheur ne pourra pas entrer dans son royaume ? À quel point la colère de Dieu demeure sur tous ceux qui résistent ? Ou est-ce que j'ai besoin de goûter à cette grâce parce que j'ai compris qu'il fallait m'humilier devant lui ? Ce soir, si vous voulez que Jésus puisse vous aider, comme nous l'avons chanté, si vous voulez que Jésus puisse vous guérir, vous devez vous approcher avec humilité, vous devez vous approcher avec sincérité et de cœur en disant « Seigneur, c'est vrai, je reconnais mon péché, je reconnais que j'ai enfreint ta loi, je reconnais que je mérite la condamnation, je reconnais que je mérite même l'enfer, mais que par ta grâce, Seigneur, tu as payé toute chose pour que je puisse y échapper. Seigneur, c'est vrai, tout cela je ne le mérite pas, c'est pour ça que c'est une grâce. » Alors dans ces instants, je veux te demander pardon et je veux accepter ce salut que tu me proposes. Merci Éternel. Oui Jésus, je te prie Seigneur dans ces instants, je te prie de bénir les cœurs de tous ceux qui sont présents ici. Seigneur, merci parce que par le Saint-Esprit, tu as parlé à nos cœurs. Merci parce que par ta parole, tu parles à nos cœurs continuellement. Merci parce que par ta loi même, Seigneur, tu parles à nos cœurs. Oui, ta loi est bonne, ta loi est parfaite, ta loi est pure, ta loi est grande, Seigneur, nous le reconnaissons. Mais nous reconnaissons surtout, Seigneur, que tu es le plus grand de tous, Seigneur, parce que toi seul as accompli la loi, toi seul peux nous délivrer de la condamnation, Seigneur. Alors dans ces moments, tu connais le cœur des personnes qui sont là ce soir. Je te demande simplement de visiter chacun et de permettre, Seigneur, que la grâce puisse être le partage de celui qui va venir avec humilité. Seigneur, que celui qui a encore de l'orgueil, que celui qui a encore un cœur hautain, Seigneur, puisse comprendre combien il est pécheur devant toi et qu'il a besoin, Seigneur, de se repentir. Merci, en tout cas, parce que tu es ce Dieu qui prend soin de nous, qui nous donne exactement ce dont nous avons besoin. Merci pour ta parole tout entière, parce qu'elle est inspirée, parce qu'elle nous conduit sur le chemin de la vérité, Seigneur. Tu es la vérité, Seigneur. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et c'est seulement par toi que nous pouvons venir à Dieu. Alors dans ces instants, Seigneur, fais du bien au cœur de tous ceux qui se repentent devant toi. Amen.